Chapitre 6. Le petit Oko court à toute vitesse dans la rue Mfundi. L'orage vient de s'abattre sur Yaoundé. Une pluie terrible, plus violente que tout ce Coco, du haut de ses 6 ans, a jamais connu. Les rues ne sont plus que des torrents de boue et les jambes nues d'Oko s'y enfoncent parfois jusqu'aux genoux. Les vendeurs des rues essaient de sauver leurs fruits, leurs paquets de cigarettes, leurs sacs d'épices, leurs poulets déplumés. Personne ne s'intéresse à ce petit garçon paniqué. Oko est trempé. Il cherche des yeux un abri, mais n'en trouve pas. La case de ses parents est trop loin, vers Ntaba, au nord de la ville. Impossible de la rejoindre, le quartier du lac doit être envahi par les eaux. Oko a peur d'être emporté, comme les branches de palmiers, les vélos et les chiens. « Viens !» Oko se retourne. « Viens, vite, entre !» Une dame blanche se tient devant la porte d'une grande maison de pierre. C'est rare, les maisons de pierre à Yaoundé. C'est rare aussi, les dames blanches. Oko entre. Il fait frais dans la maison. Elle ressemble à un labyrinthe de salles et de couloirs. Tout y est silencieux. Des adultes, des enfants, presque tous blancs, marchent lentement, souriant, comme si l'orage dehors n'avait aucune importance. « Bienvenue au Centre culturel français, » dit la dame blanche. « Je m'appelle Nathalie. Et toi ?» Oko trouve tout de suite Nathalie très gentille. Elle lui offre une serviette pour qu'il s'essuie, puis lui propose de rester à l'abri le temps que l'orage s'éloigne. Elle doit le laisser quelques minutes, parce qu'elle doit travailler, mais il peut s'installer sur une chaise dans le centre de documentation. « Je reviens, » dit-elle. « Je reviens tout de suite. Tu veux que je te choisisse un livre ?» Quand Nathalie revient, Oko est toujours plongée dans le livre. Elle le regarde de loin. Il passe un temps infini sur chaque page, fasciné, comme si c'était la première fois qu'il regardait des images. C'est peut-être vraiment la première fois. Elle devine les dessins qui défilent dans sa tête. Une planète, un vol d'oiseaux sauvages, un baobab, un ciel étoilé sur le désert. Qu'est-ce que ce petit garçon peut bien imaginer? Tu veux que je te lise l'histoire? Oko ouvre de grands yeux et secoue timidement la tête. Nathalie s'assoit à côté de lui. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Quand Nathalie a terminé la lecture du Petit Prince, l'orage s'est éloigné. Nathalie referme le livre, ouvre la porte.
« Madame, appelle-moi Nathalie, mon petit, je t'en prie. Nat, je pourrais revenir ?»«
Bien entendu, Oko. L'institut est ouvert à tous les enfants. »
Je voudrais apprendre à lire. »
Oko est souvent revenu.
Il existe plus de 300 langues au Cameroun, a expliqué Nathalie. Le français, l'anglais, mais aussi le pidgin, le fulfulde, le bakoko, presque autant de langues que dans le monde entier. Grâce à ce livre, tu pourras toutes les apprendre. C'est un livre traduit dans toutes les langues de la planète, même dans les dialectes les plus rares.
Oko a d'abord appris à lire Le Petit Prince en français, puis en anglais, puis en Bambara, la langue des Maliens, parce qu'il aimait bien que Le Petit Prince ait la peau noire sur la couverture, puis en espagnol, en portugais, en chinois. Parmi tous les personnages du Petit Prince, c'est le businessman qui fascine le plus Oko. Posséder les étoiles, quelle idée géniale! Lui ne possède rien, alors il ne cesse de penser à ce qu'affirme le businessman. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier,
Tu l'as fait breveter. Elle est à toi.
Oko est un bon élève. Il ne possède rien, mais il travaille assez bien pour que le gouvernement camerounais lui offre une bourse. Il entre à l'université. De Yaoundé d'abord, puis à Sciences Po Bordeaux. Oko n'a pas 30 ans quand il fonde sa première entreprise. Puisque le businessman du Petit Prince possède déjà les étoiles et les grandes multinationales françaises, anglaises et américaines, le pétrole, l'uranium, les diamants, la bauxite, le nickel, il a l'idée de posséder ce qui est invisible, les frontières. Celles entre les pays, les régions, les fleuves, la mer. Il se rend compte que les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour les traverser. Alors, il construit des ponts, des routes, des ports, des gares, des trains, des bateaux, des avions. Et il gagne énormément d'argent. Il habite une grande maison avec une piscine à Yaoundé et en achète d'autres en France, puis ailleurs dans le monde, quand il en a assez de côtoyer la misère de son pays. Il porte de beaux habits, roule dans de belles voitures, mais jamais il n'oublie le petit Oko aux pieds nus. Il lit presque chaque jour le Petit Prince. Il repasse dès qu'il le peut au Centre culturel français de Yaoundé. Nathalie est devenue une vieille dame. Sur ses conseils, il crée une fondation. Il donne de l'argent. Beaucoup. Une goutte d'eau de son immense fortune. Une goutte d'eau face à la misère du monde. Lors de ses nombreux voyages, il collectionne les traductions du Petit Prince. Il en possède 195, presque toutes celles qui existent, même si c'est encore moins que le nombre de langues au Cameroun. Des enquêteurs recherchent pour lui aux quatre coins de la Terre des éditions uniques. Certains exemplaires en langue rare, comme le Dzongka tibétain ou le Chipibokonibo amazonien, lui coûtent très cher, plus que pour apporter l'eau ou l'électricité dans les villages où il trouve ses livres précieux. Oko a 40 ans lorsque le géographe le contacte. Ce n'est pas son personnage préféré dans Le Petit Prince, mais il aime bien son idée. Créer un club des plus grands admirateurs du livre. Un club international. Le Club 612. Un club qui ne se contente pas de collectionner les éditions ou de monter des expositions. Non. Tout le contraire. Un club secret. Entre quelques initiés. Un club réservé à ceux qui ont su lire entre les lignes, à ceux qui entrevoient la véritable signification du Petit Prince, qui acceptent de consacrer leur vie à percer son secret, à répondre à l'ultime et sublime question que pose cette fable. Oko se lève tout en tenant ses vertèbres endolories. Depuis quelques jours, il aime se perdre dans ses pensées. Le petit Oko aux pieds nus est presque devenu un inconnu. Comme un petit-fils qu'il n'a pas eu, qu'il devrait apprivoiser. C'était il y a plus de 60 ans. Nathalie est enterrée depuis longtemps dans le cimetière de M'Volier. Le diamant des îles tangue doucement. Oko fixe la cambuse face à lui et visualise dans sa tête la boîte rectangulaire, et la seule indication de l'expéditeur. Club 612. Est-ce le bon moment pour l'ouvrir? Non. Il doit être prudent. Il est trop vieux, trop malade, trop fatigué pour continuer la quête. Il doit d'abord s'assurer que le flambeau sera transmis. Oko marche en boitant et soulève la petite vitrine de plexiglas. Il saisit le stylo Parker 51, puis retourne s'asseoir à la table. Il sourit en commençant à écrire les premiers noms sur la feuille de papier devant lui. Pour un stylo censé être resté 75 ans au fond de la mer, le Parker 51 écrit plutôt bien. L'appât était tellement grossier. Cette petite maligne d'Andy ne tardera pas à découvrir la supercherie. Peu importe. Il continue de dresser sa liste. Mary Swan, New York City, île de Manhattan, 5e avenue, Empire State Building, 79e étage. Moïses, île de Conchagüita, République du Salvador. Izar, royaume autonome d'Herminie, archipel des Orcades, Écosse. Oshi, phare de Jeddah, Arabie Saoudite. Le géographe. Andy et Neven formeront un beau duo d'enquêteurs. Même si Neven ne le sait pas encore. Même s'il ne connaît rien de sa mission. De son voyage. Un vol d'oiseaux sauvages.